Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour tout le monde! Alors, si vous nous avez écoutés depuis le début, vous savez qu'on travaille en Ontario. Alors, dans nos journées à l'école, habituellement, c'est une journée, ce qu'on appelle une journée équilibrée. Alors, donc, il devrait y avoir trois blocs de 100 minutes. Premièrement, on fait un bloc de 100 minutes. Les élèves s'en vont à la récré. Un deuxième bloc de 100 minutes. Après ça, on a le dîner et une autre récréation. Et à la fin, on a un autre bloc de 100 minutes. Alors, lorsqu'on parle de ces trois blocs de 100 minutes, t'sais, on a tous ces sujets à enseigner, on a toutes ces matières à enseigner. Mais honnêtement, si on regarde dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait durant ce bloc-là? Comment est-ce qu'on le structure?
Oh,
qu'est-ce qu'on fait?
On le structure de façon équilibrée.
Ah! Intéressant!
Oui,
intéressant.
Ça, c'est la réponse. Et l'épisode est terminé.
Ah, non.
Merci, et à la semaine prochaine.
Non, on ne peut pas faire ça.
Ben, avec tout ce qui vient de sortir sur les facultés d'éducation puis la préparation pour l'enseignement de la lecture, j'aimerais partager une petite anecdote que quand j'étais à la faculté, on nous parlait tout le temps de blocs équilibrés et puis qu'il fallait que le bloc soit équilibré puis que équilibrer le bloc, c'était très important. Mm-hmm. Mais personne nous a dit qu'est-ce que ça voulait dire un bloc équilibré.
Puis je pense que personne n'osait poser la question.
Personne n'osait poser la question.
Parce que tout le monde pensait que, je pense qu'il sait. Ouais.
Puis lorsqu'on se préparait pour nos entrevues vers la fin de l'année, on faisait des questions pratiques comme comment est-ce que tu planifierais...
Planifier ton bloc de littératie.
Comment est-ce que tu planifierais ton bloc de littératie? Puis la réponse était...
Un bloc équilibré.
C'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension, comme vous, mesdames, et on va vraiment clarifier ça veut dire quoi un bloc équilibré.
Bon, mais commençons par ça d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un bloc équilibré en littératie? On va se concentrer sur la littératie, évidemment.
Oui.
En numératie, on peut parler aussi d'un bloc équilibré.
On a un épisode qui s'en vient là-dessus.
On a un autre épisode. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un bloc équilibré en littératie? Go!
Mais je pense qu'un bloc équilibré, ça voudrait dire que ce qu'on propose aux élèves... Mais l'idée, c'est qu'il y a une variété dans ce qu'on propose aux élèves. C'est qu'on va passer autant de temps, ou plus ou moins de temps, de manière autonome à travailler, de manière en grand groupe à travailler sur des activités qui sont un peu plus dirigées, des activités qui sont un peu moins dirigées. Alors, pour qu'il y ait une certaine variété, pour que le 100 minutes n'ait pas l'air de...
D'une éternité. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Si on retourne à la base, à la définition de base, c'est vraiment d'offrir une variété.
Exactement.
Une variété d'activités, de les mettre en différentes situations pour justement essayer de couper ça en petits morceaux pour que ça soit digérable. J'adore beaucoup ça.
On a trois domaines en littératie aussi. Alors, il faut penser...
Quiz, c'est quoi les trois domaines?
Oh, c'est trop difficile!
C'est
l'écriture script, l'écriture cursive et l'écriture au clavardier.
Et le mandarin.
S'il vous plaît, n'écoutez pas ça. C'est quoi? Quels sont les trois composants?
Les trois domaines en littératie sont écriture,
lecture
et communication orale.
Ouh.
Alors, d'ailleurs, c'est ça. Alors, si on rentre aussi dans les différents domaines, ça veut aussi dire que lorsqu'on essaie d'avoir un bloc équilibré en littératie, c'est qu'on essaie de travailler ces trois domaines-là dans un bloc. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames?
Je suis d'accord.
Mm-hmm. Mais vous allez comprendre, vous allez savoir que il y a d'autres façons de travailler, puis continuez à écouter, vous allez voir.
Ça devient plus complexe.
Ça va devenir un petit peu plus complexe maintenant. Là, on a une petite idée de qu'est-ce que ça veut dire un bloc équilibré en littératie. Alors, allons un petit peu plus loin. À l'intérieur de ce bloc-là, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Est-ce qu'on devrait avoir, comme Jeanne a dit tantôt, l'écriture script, l'écriture cursive, le mandarin et le clavard? Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans ce bloc équilibré
en littératie? L'idée en littératie, c'est d'offrir un certain étayage aux élèves. Alors, on a 4 situations de lecture et d'écriture qu'il faut qu'on offre aux élèves à toutes les semaines, un certain nombre de fois par semaine en plus. Alors, si on commence par la lecture modelée, alors dans cette situation-là, c'est vraiment l'adulte qui fait tout le travail. C'est l'enseignant qui lit aux élèves en modélisant en même temps, parfois ou la plupart du temps, une certaine stratégie ou concept en lecture ou en écriture. Alors, l'enseignant qui est en train de lire ou d'écrire verbalise sa pensée à voix haute en même temps.
Mm-hmm. Alors, le modéliser, ça serait de démontrer à l'élève quelles sont l'activité cognitive que je fais pendant que j'applique, que je fais cet exercice-là.
C'est ouais. ça. Qu'est-ce qu'un bon lecteur fait en lisant?
Et qu'est-ce qu'un bon scripteur aussi?
Oui, oui.
Parce que les 4 stratégies s'appliquent autant en écriture qu'en lecture.
Oui.
Alors, le niveau d'étayage est le même.
C'est ça, exactement.
Alors, quand on est en modelé, que ce soit en lecture ou en écriture, c'est là où on offre beaucoup de soutien.
Oui.
Oui. Mais alors, comme par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, si c'est une lecture modelée, là, par exemple, Mme Vicky qui lit un livre en avant, et Mme Vicky va lire probablement 2-3 phrases, puis elle va s'arrêter pour vraiment verbaliser soit une stratégie de lecture ou soit comment acquérir un nouveau vocabulaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme juste un exemple très, très vague. Là.
Mais ça dépend de ton intention, là.
Mm-hmm.
Alors, si ton intention, c'est de faire la lecture d'un roman pour que les élèves aient envie de le lire, ben d'arrêter à chaque 2-3 phrases, c'est peut-être pas le plus pertinent parce que les élèves vont décrocher.
Mm-hmm.
Mais si tu veux faire... Je te dirais tout dépendant de ton intention.
Absolument. Je suis d'accord avec ça.
Oui. Et ça, c'est une chose. Il faut faire attention de ne pas s'arrêter trop souvent parce qu'on va créer un bris de compréhension aussi dans
Absolument. Le texte. Parce que tu peux plus suivre. Oui, c'est tannant.
C'est tannant,
puis tu peux plus suivre. Puis ça, c'est une erreur que je faisais très souvent au début de ma carrière. Que j'étais tellement concentrée à leur donner des stratégies que j'arrêtais trop souvent.
Mm-hmm.
Puis à la fin, si tu leur demandes, mais qu'est-ce qu'on a lu? Probablement qu'ils vont,
se rappeler des interruptions, mais pas entre les interruptions.
Puis, pour la lecture modelée, il faut se rappeler aussi que c'est juste l'enseignant qui a accès au texte. C'est l'enseignant qui lit. Il n'y a pas un texte grand format. C'est pas tous les élèves qui ont le texte devant eux. Et que c'est à un niveau un peu plus difficile que les élèves ne seraient pas en mesure de lire de façon autonome.
Autonome.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on pourrait dire que la lecture modelée, c'est une façon de faire la lecture aux élèves?
Mais oui. Oui, c'est ça.
Alors, la lecture aux élèves, c'est quand on s'assoit, ça serait l'heure du conte, ça serait...
Mm-hmm.
Mais avec une intention. Que ça soit une intention en stratégie de lecture, en vocabulaire ou en juste on apprend à aimer la lecture.
Exactement. Oui. Bravo.
Puis en écriture, ça voudrait dire que l'écriture modelée, je pourrais faire l'écriture de, je sais pas moi, message du jour, mais que là, en écrivant mon message du jour, je passe à travers le discours interne que je ferai en tant que scripteur, mais là, comme les élèves apprennent à être scripteur, je dis à voix haute, à la fin de ma phrase, je dois mettre un point et après, je dois commencer ma prochaine phrase avec une majuscule pour que les élèves apprennent ce discours-là, n'est-ce pas?
Et tu peux écrire pour le plaisir aussi. Tu peux leur montrer que je peux jouer avec les mots. Que si je pense à une phrase qui est très poétique ou quelque chose qui rime ou quelque chose d'humoristique.
Tu vois, je n'avais jamais pensé à ça.
Oui, moi non plus.
Wow! Écrire pour le plaisir.
Mais c'est intéressant aussi parce que on a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas trop écrire. Mais si on modélise pour eux aussi, regarde ce que j'utilise toujours ce type d'exemple, mais regarde ce que l'auteur a fait ici. J'adore la façon dont il a commencé sa phrase. Je vais l'emprunter et je vais expérimenter avec ce type de phrase moi-même.
Mm-hmm. Non, c'est intéressant.
Intéressant. Ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tout ce que vous venez de dire.
Mais tu vois, de manière comme naturelle, j'avais toujours tendance à faire l'écriture modelée en fonction d'une structure de texte, d'une convention linguistique, mm-hmm. d'une règle de grammaire, de... Mais j'avais jamais pensé à faire l'écriture modelée pour le plaisir de la... Est-ce que je reparle mon travail?
Non, tu es juste en train de t'améliorer.
Exactement.
De t'épanouir. OK, alors si on passe au niveau un peu plus, plus bas de d'étage, on parle de la lecture et de l'écriture partagée.
Mais j'ai appris quelque chose.
Ah oh, oui, de qui?
De toi.
Oh, c'était quoi?
Que partager, ça veut dire que la responsabilité de soit de la lecture ou de l'écriture est partagée. J'aime ça. Alors, c'est autant l'adulte que l'enfant qui est responsable dans l'activité qu'on est en train de produire. J'aime vraiment ça.
Exactement.
C'est un petit peu le jeu et nous.
Mm-hmm. Ouais, oui, le jeu, oui, c'est le...
Le « nous ». On, oui. On.
Et puis, quel genre de texte, quel format de texte,
ben,
texte est-ce qu'on a pour...
Si on veut que les enfants soient aussi responsables que de nous à la lecture, il faut d'abord qu'ils aient accès au texte. Mm-hmm. Alors, ça serait soit les livres en grand format, soit mm-hmm. les livres sur le projecteur, mm-hmm. soit les livres... comment tu appelles ça? Les livres numériques projetés sur le TBI, sur le tableau numérique, ou peu
oui.
importe,
oui.
mais que tout le monde a accès au texte.
Mais, et j'aimerais préciser que ce que la lecture partagée n'est pas, c'est la lecture autour de, à tour de rôle.
Non. Ah, oui, oui, oui. oui.
Tu sais, on doit toujours offrir des occasions pour nos élèves en difficulté d'avoir du succès. Alors, mm-hmm. si dans nos textes partagés, on a le choix de participer, de voir, de lire une partie toute seule, s'il y a une phrase ou une partie du texte qui est plus facile et on demande aux élèves qui aimerait lire la prochaine phrase, si l'élève qui est en difficulté sait qu'il est capable de le lire, que lui, il choisisse de le faire. Et, tu sais, quand j'ai partagé quelque chose sur Facebook il y a quelques mois, à propos de cette idée-là qu'on ne devrait jamais dire aux élèves, tu vas lire une phrase, puis la personne est derrière toi, puis ensuite on mm-hmm. va faire le tour de la classe.
Mm-hmm.
Mon père était presque en larmes pour penser qu'il y a encore de nos jours des gens qui font ça. Parce que lui, il a le souvenir d'avoir été à l'école, puis d'avoir essayé de suivre, mais il était mm-hmm. tellement nerveux parce qu'il savait mm-hmm. que son tour s'en venait.
Oui.
Puis il était tellement humilié. Il a oui. dit, tu sais, c'est comme te demander comme enseignante de te mettre sur l'estrade puis de chanter tout seul devant toute l'école.
Oui.
C'est
oui.
quelque chose que je ne serais pas à l'aise de faire.
Quand j'étais jeune à l'école, c'était univers social au Québec. Et puis, je me souviens que c'est ce qu'on devait faire. On devait lire le texte en univers social sur un sujet X, là. Puis là, il fallait lire. Puis là, je comptais le nombre de personnes. OK, ça va être dans 6 phrases, ça va être à mon tour. Fait que là, j'allais compter la 6e phrase. Puis là, je la relisais pour être prête. À ouais. Quand ça va être mon tour, je ne vais pas bafouer. Je ouais. vais être capable de lire tous les mots. Là.
Puis les 5 premières phrases, est-ce que tu les as écoutées?
Pas du tout.
Est-ce que tu les as lues?
Tout.
Non. Yep. Je faisais exactement la même chose.
6e phrase, c'est tout ce qui
compte. Oui, exactement. Ce Puis c'est pas ça notre intention comme enseignant. Puis ça, c'était pas l'intention de ton enseignant non plus.
Non, pas du tout. Non, 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 non.
Pas
non.
du tout. Mais, ouais, je peux voir que c'est... La lecture, un après l'autre, c'est pas... Si t'es pour le lire, si on est pour lire, lisons tous ensemble.
Oui, la lecture en chorale.
Oui, exactement.
À l'unisson.
alors ensuite, il faut qu'on parle de la lecture et de l'écriture guidée.
On a fini de parler de la partager?
En autant en écriture et en lecture. Oui. Est-ce qu'on a parlé un petit peu de l'écriture
partagée?
C'est dans le même contexte, mais...
On partage la responsabilité
et le stylo.
Ah, faut que je partage mon stylo?
Oui. Oui. Ton marqueur, ton feutre.
Ouais. Ton feutre.
Non, c'est... L'idée est géniale. Puis je pense que l'enfant... voit l'écriture tout autrement quand, écoute, c'est moi qui ai le stylo.
Mm-hmm.
C'est gros, là. J'ai le stylo de madame dans ma main.
Oui. En même temps, je me demande s'il faut vraiment partager le stylo. Parce que si mon intention en écriture partagée, c'est l'enchaînement logique des idées, est-ce qu'il faut que ce soit l'élève qui écrive ou est-ce qu'il faut tout simplement que ce soit l'élève qui propose la prochaine phrase?
Mais je pense que le partage de ton stylo va être proportionnel à ton intention. Alors, si ton intention, c'est de lui faire verbaliser, je sais pas moi, les régularités orthographiques quand il écrit des mots, bien, je vais lui prêter le stylo. Mais si je veux travailler justement l'enchaînement des idées, peut-être que moi, je vais écrire, mais que lui, je vais lui demander de dicter les idées.
C'est parce que je trouve que c'est dans des différentes situations, dans différents degrés d'étayage, mais dans une situation, il y a aussi de différents degrés d'étayage.
Est-ce qu'on est prête à passer à une autre situation?
Alors, la prochaine situation, ça serait au niveau de la lecture et de l'écriture guidée.
Moi, ce que j'ai compris,
toi?
C'est... Moi, oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lorsqu'on fait une lecture guidée, je vais commencer par la lecture. Lorsqu'on fait une lecture guidée, c'est lorsque l'enseignant travaille avec un petit groupe d'élèves et tout le monde a accès à une lecture, que ce soit le même livre ou que ce soit
une copie du texte,
exactement. Ouais. Que ça peut être le même livre, ça peut être un livre de textes différents. Et souvent, on va les rassembler selon leurs besoins pour justement travailler les différentes stratégies de lecture qu'on a déjà vues en salle de classe pour voir s'il y a des lacunes à travailler, s'il y a d'autres aspects dans la même stratégie de lecture qu'il faut travailler. C'est là, durant la lecture guidée, qu'on peut travailler ça. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à ajouter? Allez-y.
Non, absolument. La lecture guidée, c'est pendant que tout le monde est occupé, comme que tous les autres élèves... Les autres éléphants... Pendant que tous les autres élèves sont occupés à faire une tâche, ben moi, je peux m'asseoir avec un petit groupe. Puis là, j'ai remarqué que, je sais pas moi, ces élèves-là, le son « on » n'est pas acquis.
Absolument.
Alors,
oui.
On va aller relire les « là ». Puis est-ce qu'on leur connaît le son « on » pour que ces élèves-là, sachant que l'enseignement initial là, n'est pas allé les chercher, ben faut que j'aille plus loin avec eux puis que je revoie le concept pour voir si c'est acquis.
Et qui est en action dans la lecture guidée? Si on a parlé de responsabilité, que dans la lecture modelée, lecture écriture, c'est la responsabilité c'est l'enseignant qui travaille. Lecture partagée, la responsabilité est partagée. En lecture guidée,
c'est l'enfant qui est responsable de la lecture. Attends, as-tu la bonne réponse?
Ben, l'enseignant est là pour le...
soutenir.
Guider!
Oh, non!
Oh, c'est pour ça que ça s'appelle la lecture guidée!
L'enseignant guide.
Mais l'enfant
élèves.
Lit.
Mm-hmm.
Parce que là, ça va être quand même une lecture qui est dans sa zone proximale de développement, ouais. Mais qui a une intention particulière en fonction d'un défi qu'il est en train de vivre.
Et quel serait le lien entre la lecture guidée et la lecture autonome?
Oh,
c'est une question piège.
Non, je pense pas. Attends, je vais essayer de la répondre. Je pense que le lien entre la lecture guidée et la lecture autonome, lorsque tu veux faire le pont entre ces deux situations de lecture, c'est parce que durant la lecture guidée, on va essayer de travailler soit un son, soit le décodage, soit une stratégie de lecture, soit le vocabulaire. C'est là que tu vas indiquer à l'élève, « Oh, voici ce que tu peux travailler lorsque tu vas faire la lecture autonome pendant la semaine prochaine, pendant la semaine qui s'en vient, entre maintenant puis la prochaine fois qu'on va se voir en groupe ou...
Alors, dans le fond, la lecture guidée serait là pour outiller l'élève puis lui donner les objectifs pour sa lecture autonome.
C'est ça. Puis, comme tu avais parlé de faire un pont entre la lecture guidée et la lecture autonome, on peut faire le pont de la modeler jusqu'à la partager, jusqu'à la guider, jusqu'à l'autonome. Parce qu'on a vraiment la même intention avec moins d'appui de la part de l'adulte.
Ouais. J'ai l'impression que juste le voir de cette façon-là, ça rend les choses beaucoup plus organiques, que c'est moins linéaire. Là. OK, on fait ça. Non, on fait ça.
Parce que tout est dans le but.
Parce que ça nous amène à ça et que ça nous amène à ça. Et
puis, tout est dans le but de devenir un meilleur lecteur ou un meilleur scripteur.
Oui,
voilà.
Mais
est-ce que c'est la même chose pour l'écriture guidée et l'écriture autonome?
Oh, ben oui! Mais oui, on est en train de travailler une stratégie, une notion grammaticale que l'élève va pouvoir appliquer dans son écriture autonome.
On aime ça.
Lorsqu'on se parlait avant de commencer l'enregistrement, tu avais amené le point, Vicky, qu'il faut aussi non seulement varier les activités, mais aussi varier les types de textes.
Oui. Ce qu'on avait discuté, c'est que, en fait, dans les salles de classe, on observe souvent, puis moi, des fois, je fais aussi cette erreur-là. On va privilégier plutôt les textes narratifs plutôt que les textes informatifs. Tandis que les textes informatifs, c'est souvent ce que les élèves sont moins exposés, fait qu'ils ont moins, ils sont moins habiles à retirer l'information, à les lire, à comprendre c'est quoi la structure et tout ça. Alors, je pense que c'est au moment de la lecture guidée qu'on pourrait vraiment varier le type de texte pour que les élèves puissent être exposés à des différents types. Mm-hmm. C'est ça qu'on avait parlé un petit peu avant l'enregistrement.
Oui, puis je pense que ça, c'est la raison pour laquelle aussi, dans le curriculum, on a les textes prescrits. C'est pour s'assurer que les enfants soient exposés à une variété de types de textes, mais je suis d'accord avec toi qu'on a tendance à travailler plus mm-hmm. le texte narratif, et on le voit même dans les résultats des évaluations en lecture, le GV+, que lorsqu'on choisit le texte informatif, mm-hmm. les résultats sont beaucoup plus bas que lorsqu'on choisit le texte narratif.
Ouais. Mm-hmm. Puis souvent, les enfants comme des stratégies aussi bêtes que de prendre l'image, par exemple, de se questionner par rapport à l'image. Quand on lit un texte narratif, l'image est là pour soutenir ou souvent comme juste expliquer ce qui se passe dans les mots, tandis que dans les textes, comme informatifs, au niveau du schéma, tout ça, il y a de l'information super importante dans les schémas, dans le dessin, que l'enfant a tendance à juste
pas lire,
parce que c'est des dessins, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est important de faire que, tout dépendant du type de texte que je vais lire, je vais pas avoir la même intention en tant que lecteur. Mm-hmm. Non, c'est tout à fait.
Oui, j'avais lu dernièrement un article sur l'enseignement de la lecture qui parlait du fait que c'est pas nécessairement le niveau de difficulté, le nombre de mots ou le vocabulaire qui détermine la compréhension, mais c'est plutôt la motivation puis les connaissances antérieures.
Mm-hmm.
Alors, dans la recherche qui avait été faite, c'était un texte sur le baseball. Mm-hmm. Puis peu...
Boring!
Right?
Madame,
puis
c'est boring.
Peu importe le niveau de lecture de l'élève, les élèves qui n'avaient pas beaucoup de connaissances, qui n'aimaient pas, qui ne connaissaient pas le baseball, avaient eu de pires résultats que les élèves qui adoraient le baseball, même si leur niveau de lecture était plus bas.
Mm-hmm.
Alors, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on offre des textes en contexte à nos élèves. On parle toujours de contexte dans le vocabulaire, dans tout ça, mais si on travaille l'Égypte ancienne en études sociales et qu'on commence à lire sur la société, mais on ne connaît pas les rôles, on ne connaît pas le mode de vie,
mm-hmm.
ben, on va avoir beaucoup plus de difficultés que 3 semaines plus tard, après avoir étudié l'Égypte ancienne. Là, on me propose un texte similaire, je vais beaucoup mieux mm-hmm. comprendre.
Absolument.
En fait, je vais juste revenir à quelque chose que j'ai dit. Tantôt, j'avais dit que durant la lecture guidée, c'est le meilleur moment d'utiliser tes différents textes. En fait, dans n'importe quelle situation,
mais
on devrait. Mm-hmm. Fait que je vais revenir un petit peu sur ça. Alors, effaçons la phrase que j'avais dit il y a, je sais pas, une dizaine de minutes ou même 5 minutes. Mais je vais dire que dans n'importe quelle situation de lecture et d'écriture, on devrait...
Absolument.
On devrait utiliser différents types de textes.
Et avoir une grande variété de textes dans notre bibliothèque de salle de classe.
Absolument.
Et pas juste des livres nivelés.
Non.
Surtout au primaire. C'est méchant d'avoir une salle de classe remplie de...
Oui.
Comme, il y a un moment pour ça, mais
il devrait...
c'est pas motivant.
Non, c'est ça. S'ils continuent à juste lire des histoires, mais quand ils vont être adultes, mais ils n'aimeraient pas ça, lire National Geographic.
Mais
on veut qu'ils lisent.
Tu sais, on garde en tête qu'ici, il y a différentes intentions pour le scripteur, il y a différentes intentions pour le lecteur. Alors, il y a des matins où je peux décider de lire avec l'intention particulière d'aller travailler une stratégie de compréhension, mais il y a des matins où je peux aller lire avec l'intention unique que de lire pour le plaisir.
Mm-hmm.
Alors, si je lis pour le plaisir et que tout ce qui m'est offert comme lecture pour le plaisir, c'est des livres GV+, niveau 8, ça se peut que ça me tente un peu moins.
Non, et si je suis passionnée par les dinosaures Et il y a un livre complexe, peut-être que c'est au niveau de la quatrième année, dans ma salle de classe, je vais faire un effort pour le comprendre. Je vais utiliser tous les indices. Je vais utiliser les graphiques. Je vais utiliser les images pour comprendre parce que la motivation est là. J'aimerais aussi mentionner que la semaine dernière, quand j'étais à Reading for the Love of It, qui est une conférence sur la lecture à Toronto, un des conférenciers avait parlé du fait que nous, on lit plusieurs types de livres. On lit des livres... ce qu'il avait dit. Des livres qui proposent un défi, des livres qui sont des vacation books.
Vacation books.
Oui, c'est-à-dire que les livres... Quand tu vas à la plage...
Les livres comme que si tu mouilles, c'est pas grave, là, parce que ça finit toujours bien de toute façon.
Oui, comme Confessions of a Shopaholic ou
c'est ça, des chick flicks.
Ouais.
Des chick flicks sous fond de livres.
OK, alors, des livres qui sont juste à ton niveau, qui sont à ta portée, des livres qui te posent un défi, puis même comme adulte, il y a des romans que je lis qui sont plus philosophiques ou... il y a un genre d'expérimentation avec la langue qui sont plus difficiles, puis des livres de vacances. Et que nos élèves devraient lire ces trois types de livres aussi.
Mm-hmm.
Alors, pour mon petit bonhomme qui est en deuxième année, peut-être que son vacation book, c'est pas le GB+. Peut-être
c'est un Capitaine Bobette.
Oui, c'est Capitaine Bobette, c'est Geronimo Stilton, c'est le journal
dégonflé.
Oui, voilà.
Oui.
Et peut-être que son Challenging, c'est le livre sur le dinosaure, et peut-être que son Just Right, ça c'est le niveau du GB+.
Mais là, on est en train d'ouvrir une porte que pour pouvoir avoir un bloc de littératie équilibré dans la lecture autonome, ben, ça voudrait dire que je devrais avoir un centre de lecture qui est tout aussi diversifié.
Oui, et qui change.
Et qui change, et qui est attrayant,
mm-hmm.
et que tu as le goût d'aller te choisir un livre.
Oui, absolument. Oui. Pas 40 livres maganés
des années 90.
Puis qu'il n'y a plus la page couverture, les pages sont déchirées.
Non.
Alors oui, tout ça, c'est super important, je suis tout à fait d'accord.
OK, mesdames, on a manqué quelque chose de très important. Quoi? On n'a pas encore parlé de...
La communication orale.
Oui.
Oh, OK, j'avais d'autres choses en tête, mais je pense qu'on va revenir là-dessus.
Mais la communication orale, si on regarde le guide d'enseignement efficace en communication orale qui est publié par le ministère de l'Éducation en Ontario, ce que ça dit, c'est que généralement, dans une journée, les élèves ont trois types de communication orale. Ils ont les interactions,
mm-hmm.
les présentations orales, et l'expression.
C'est ça.
Et que dans ces trois-là, sur le diagramme qui est présenté, il y a un diagramme à pointe de tarte. Il y a une toute petite partie pour les présentations orales. Il y a une toute petite partie pour l'expression. Puis tout le reste, c'est les interactions. Et que malheureusement, la façon qu'on utilise la communication orale pour faire l'évaluation, c'est des présentations orales. Sachant que l'exercice, la pratique, c'est pas ça.
Non, et puis, étant donné qu'on est en train d'avoir des interactions verbales à tous les jours, c'est tellement quotidien que les enseignants oublient de faire des observations
mm-hmm.
Et de cueillir des preuves d'apprentissage.
Ou juste de faire l'enseignement explicite de certaines stratégies de communication orale.
Oui.
Parce que de savoir écouter, c'est aussi valable que de savoir parler.
Mm-hmm.
Cette espèce de ping-pong dont on se renvoie l'information dans une mm-hmm. conversation, où il n'y en a pas un qui, comme je fais là, qui prend le contrôle de la conversation, puis que les autres qui attendent leur tour, ou pendant que tu écoutes, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Est-ce que tu es en train de planifier ta prochaine phrase, ou est-ce que tu es sincèrement en train d'écouter?
Actif. Alors,
tout ça, là, c'est des stratégies, c'est au même titre que j'apprends à évoquer l'imagerie mentale en lecture,
exactement.
Je dois apprendre à prendre la parole en communication.
Oui, mm-hmm. et je trouve que si j'allais recommander que les gens mettent plus d'emphase sur quelque chose, ce serait la communication orale.
Mm-hmm.
Parce qu'on oublie qu'il faut que ce soit planifié aussi, et il faut qu'on se taise de temps en temps. Parce que les enseignants, même si on pense que « non, pas moi », c'est « moi, je parle pas 80% de la journée », si on s'enregistre, si tu vas observer dans des classes, la majorité du temps, tu vas voir que c'est l'enseignant qui est en train de parler.
Oui, puis généralement, c'est pour donner des consignes, diriger, va faire ça, c'est pas forcément ce que les élèves, c'est pas le meilleur des modèles qu'on peut offrir.
Non. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as fait ça? Explique-moi ça.
Enlève ça dans ton nez.
Marchez dans les corridors!
On a tous fait ça. On a tous fait ça.
Là, je vais prendre la responsabilité de notre collègue Gabrielle, qu'on salue, qui est une conseillère pédagogique à l'élémentaire à Viamonde. Elle nous dirait, c'est beau tout ça, là. Mais dans la vraie vie, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi du bloc équilibré en littératie dans la vraie vie?
Ben, OK.
Vas-y.
Comme un exemple. Par exemple.
Un exemple.
Je peux faire une lecture aux élèves. Après cette lecture aux élèves, on peut faire une petite étude de vocabulaire. Je peux leur demander de tourner et parler avec la personne à côté de toi pendant ma lecture interactive. Qu'est-ce qui va se passer par la personne à côté? Pourquoi est-ce que le personnage a fait ça? Tourne et parle à ton partenaire. Après, je peux leur donner une petite tâche d'écriture, d'appréciation de l'histoire, quelque chose du genre. Il peut y avoir des centres de littératie où moi, j'ai l'opportunité de faire ma lecture ou mon écriture guidée.
Par centre de littératie, t'entends quoi? Est-ce que c'est là qu'on pourrait dire que les cinq au quotidien, par exemple?
Oui, ça pourrait être ça ou ça pourrait être d'autres activités. Oui. On pourrait revenir en grand groupe puis faire une lecture modelée, écriture modelée où on écrit à l'auteur du livre ou... On essaie en partager, les élèves me disent qu'est-ce qui s'est passé dans le livre, puis on essaie de reconstruire l'histoire qu'on vient de lire, et je parle d'une histoire, un texte narratif. Mm-hmm. voilà quelques exemples.
OK. Alors, quand on parle, par exemple, de introduire la communication orale dans un bloc de littératie équilibrée, je pourrais facilement jouer, par exemple, à la chaise de l'auteur, qui est une mm-hmm. stratégie où, mm-hmm. là, on discute de voici du texte que j'ai écrit, puis voici, Alors, l'enfant est en train de parler, est en train de présenter ce qu'il a à dire, mais en même temps, on est en train de parler de ses écrits. Alors là, ça pourrait être un peu du partager, guider un peu. Non?
Du guidé?
Pas du guidé, excuse-moi. J'ai encore de la... Je m'excuse.
OK. Mais je pense que ce sont de bonnes idées, mais ce qui serait encore plus profitable pour toute la classe...
Non!
C'est le nom du podcast! c'est de faire parler tout le monde en même temps, parce que quand une personne parle, là, on a une personne qui est en action. Lorsque je demande à tous mes élèves de travailler en collaboration, que je les mette en diade, déjà je multiplie les occasions de faire de la communication orale. Et quand je m'arrête puis je fais un passe-partage, au lieu d'avoir une personne qui répond à ma question, j'ai toute la classe qui est en communication.
Toute la classe!
Oui, ça c'est le nom du podcast!
En fait, moi, je vais... Est-ce que Jen avait fini ton idée? Je pense que je répondrai à la question de Mylène un peu différemment. Je pense que, comme tu sais, qu'est-ce que ça a l'air? Moi dans ma tête, j'ai besoin d'un petit horaire dans ma tête tout le temps. J'ai besoin d'être structuré. Moi, j'assignerais peut-être un petit bloc de temps pour chaque... de varier justement les différentes situations, les différents composants. Exactement comme Jen, tu l'as dit, mais moi, je dirais... comme je le structurerais, c'est un mot, je le structurerais d'une façon en disant que je mettrais 15 minutes pour une activité, 15 minutes pour une autre, 15 minutes pour une autre, puis 15 minutes pour une autre. Puis on essaie de mettre les différentes situations de lecture, de l'écriture dans...
De manière intentionnelle.
Exactement, toujours. Puis je vais pas me chronométrer, évidemment, mais sauf que je me mettrais un petit bloc de temps pour s'assurer que mon bloc est justement équilibré.
Et tu vas être limité par l'attention des élèves aussi, mm-hmm. parce que dans une classe au primaire, même au cycle moyen, on ne peut pas demander aux élèves d'écrire pendant 60 minutes.
Non.
Alors, de nécessité...
Comme adulte, je pense que je peux même...
Moi, je ne peux pas
écrire pendant 60 minutes. Il faut qu'on équilibre notre bloc.
Ouais. OK. J'ai une question à 1 million de 1 000 $.
Et la réponse est oui!
Faux! Pardon. Ma question, c'est, j'entends souvent des enseignants qui disent « Ah, mon bloc de littératie, il est réglé, je fais les cinq au quotidien. »
J'aime ça. J'aime tellement ces questions-là. En fait, t'as même pas posé une question, mais je sais que ça s'en vient. Vas-y.
On y dit quoi, cet enseignant-là?
Oh, j'ai tellement de choses à dire. Vas-y, Jen.
J'ai tellement de choses à dire, mais vas-y, Jen.
Vas-y, Jen, en premier.
Oui. Bien, premièrement, puis ce qui est le plus évident ou le plus flagrant lorsqu'on lit le livre, c'est que c'était pas écrit par des auteurs qui enseignaient dans le même milieu que nous. Et nous, en milieu minoritaire, il faut qu'on mette beaucoup d'emphase sur la communication orale. Puis, à mon avis, si on ne fait que des blocs où on utilise la gestion de la structure des cinq au quotidien, on va beaucoup négliger la communication orale. Mm-hmm. Alors, ça, ce serait ma première inquiétude.
Mm-hmm. OK. On fait un petit repas, un petit pas en arrière. Moi, je vais retourner pour voir un petit peu la vue globale. Je pense que le cinq au quotidien est une façon de pouvoir équilibrer ton bloc. C'est un outil qui pourrait t'aider à équilibrer ton bloc, mais tu n'as pas besoin d'un 5 au quotidien pour pouvoir équilibrer ton bloc.
Mais j'irais plus loin en disant que les 5 au quotidien, tout dépendant comment tu mets la structure en place, ça ne veut pas dire que tu touches à tout. Là.
Absolument.
C'est pas parce que j'ai mis les 5 au quotidien que je fais de la lecture modelée, de la lecture partagée. Absolument. De l'écriture autonome. Il faut vraiment être intentionnel dans la façon dont on met les 5 au quotidien en place pour s'assurer que tous les éléments qui devraient être à l'intérieur du bloc de l'équilibré, de l'interaction équilibrée s'y retrouvent.
Absolument. Oui, parce que je pense que ce que les enseignants aiment beaucoup, c'est que les élèves deviennent de plus en plus autonomes. Et c'est vrai qu'on voit la résistance qui s'améliore avec le temps, avec la pratique. Mais si on ne le fait pas exactement comme c'est conseillé dans le livre, on néglige certaines choses. Alors, ce que je vois qui est souvent négligé, c'est les mini-leçons. Mmh. Et c'est vraiment dans les mini-leçons que tu vas faire ta lecture aux élèves,
ouais.
Que tu vas faire ton écriture modelée et partagée. La guider, ça se fait très, très bien dans les 5 au quotidien, mais il faut s'assurer qu'on prend ces 5 à 7 minutes des mini-leçons pour vraiment faire quelque chose d'important.
Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Puis je dirais aussi que tout dépend aussi de la qualité de ce qui est offert dans les centres, parce que si je fais des photocopies, puis que là, entoure le son on, ou vois-tu, je veux dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis vraiment en train de diversifier ou de varier ce que je propose à mon élève, si de manière individuelle, il va aller souligner le son on? Je le sais pas.
Non.
Je le sais pas. Alors, il faut vraiment être intentionnel dans ce qu'on propose aux élèves, puis de vraiment aller voir toutes les composantes. On est vraiment en train de travailler le vocabulaire? Est-ce qu'on est vraiment en train de travailler les formes de texte, les éléments, les figures de texte? Mm-hmm. Est-ce qu'on est en train de travailler tout ça dans nos 5 au quotidien pour dire que je suis en train de faire
et ça? Et ça peut se faire. Ça peut, je l'ai vu dans quelques heures de classe. Mais je trouve que, tu sais, j'ai vu les 5 au quotidien dans beaucoup de classes et je dirais que je l'ai vu fait comme il faut, dans 10% de ces classes.
Absolument.
Alors, je trouve que c'est un modèle qui peut porter beaucoup de... vraiment porter fruit, mais qui peut aussi induire les enseignants à avoir un sens de...
Oh, mon bloc est équilibré.
Mon bloc est équilibré.
C'est pas la même chose.
Parce que je fais les 5 au quotidien, mais le 5 au quotidien n'est pas vraiment...
Tu vois, moi, les 5 au quotidien, je le vois juste comme une structure de gestion de comportement.
Oui.
C'est comme, comment est-ce qu'on gère la patente?
Oui.
Mais là, la façon qu'on habille les centres, après ça, c'est une toute autre histoire.
Mais quand tu parles de centre, tu parles de l'étude de mots?
L'étude de mots. Ou, tu vois, puis...
Un jeu, comme dans un projet d'écriture. Ça.
J'ai, comme quand je parle des 5, quand je propose les 5 au quotidien aux enseignants, tu sais, dans ma tête, les centres et les 5 au quotidien... La différence, c'est que dans les 5 au quotidien, la structure te permet de faire de l'enseignement guidé avec tes élèves. Tu peux te retirer pour aller travailler avec des petits groupes.
Ouais.
Mais dans ce qui est proposé aux élèves, que ça s'appelle centre ou que ça s'appelle le 5 au quotidien, c'est la valeur. Quelle est ton intention lorsque tu proposes?
Ouais.
Que ça soit trois propositions en écriture, une proposition, comme le nom que tu y donnes,
peu importe. Oui, c'est pas important.
Est-ce que tu as une intention qui est en lien avec ton bloc d'équilibre?
Exactement.
En revenant, je peux pas, vous pouvez pas me voir, là, mais je suis en train de hocher la tête. Là.
Ah non, écoute, elle a des trous dans la table.
Ouais, je pense que ça va dévisser là, à un moment donné, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mylène, puis pour revenir à ce que Jen, tu as dit, lorsque tout le monde dit oui, je fais le zinc au quotidien, fait que là, tout est réglé. Mais lorsque tu vas dans la salle de classe, il y a probablement 10 % des enseignants qui font vraiment comme il faut. Alors là, on parle de ce qu'on appelle la fidélité. Est-ce qu'on est vraiment fidèle au modèle? Même lorsque tu es fidèle au modèle, est-ce qu'à l'intérieur de tout ça, est-ce que tu as une intention, puis est-ce que tu travailles toutes les situations de lecture, puis d'écriture, puis de communication orale? Faudrait vraiment, vraiment réfléchir avant de dire « c'est beau, on a fait ». Puis tu peux pas, il faudrait vraiment, vraiment différencier. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux choses-là. Utiliser des gros mots, ça veut pas dire que vous le faites.
Puis je te dirais que dans les classes où j'ai la chance d'aller travailler comme à plusieurs reprises dans une semaine, ce que j'aime voir, c'est une semaine, c'est la structure des cinq au quotidien dans le bloc de littératie équilibrée. La journée d'après, Non, on l'a mis les cinq au quotidien, là, on propose autre chose. On est en train de travailler en guidé, on est en train de travailler. Ou c'est pas parce que j'utilise la structure des cinq au quotidien que je dois le faire à tous les jours et que je sens mon 100 minutes. Ça peut être une partie de ce que je fais, ça peut être un certain pourcentage de ma semaine, ça n'a pas besoin d'être toute la semaine. Et ça, j'aime vraiment ça, voir ça. Ouais. Parce que les profs, ils te le disent. Pourquoi je fais ça comme ça? Mais parce que si je le fais pas comme ça, j'ai pas le temps de faire la partager, la guider, il y a une réflexion qui a été faite derrière. On est intentionnel dans les choix qu'on a faits.
Absolument.
Puis tout ça en lien avec le bloc équilibré pour l'apprentissage des élèves.
C'est vrai, on est ici pour les élèves. Retournez toujours à cette idée-là, s'il vous plaît. Tu viens juste de dire un mot que j'aimerais ça revenir juste là-dessus, la fréquence. Alors, est-ce que pour chaque composant, pour chaque situation, il y a comme une fréquence à, en guillemets, respecter?
Oui.
Oui.
Est-ce qu'il faut le faire comme un certain nombre de fois?
Oui.
Est-ce qu'il faut le faire à chaque jour? Tout est fait à chaque jour. Bien, fait qu'au lieu d'avoir 100 minutes, on a 300 minutes puis on fait rien d'autre que la littératie. C'est bien ça?
Bien, l'idée, c'est que oui, il y a une certaine fréquence. Alors, si on regarde que ça soit en lecture et en écriture, l'enseignement modelé et l'enseignement autonome devrait être fait à tous les jours.
La pratique autonome, oui.
La pratique autonome et la pratique modelée.
Oui, et les deux autres situations, il me semble que c'est trois
fois par semaine. Partager et guider trois fois par semaine.
Oui. Puis, il faut aussi avoir un peu de flexibilité et se dire aussi que parfois, peut-être ta lecture autonome ou ta lecture partagée pourrait être dans la classe de sciences ou d'études sociales ou une autre matière.
Absolument. Et l'enseignement de la structure du texte de marche à suivre pourrait être fait après être revenu du gymnase. Et là, c'était la cacophonie. Oh. Alors, moi, une marche à suivre. Qu'est-ce qu'on fait? De quelle manière est-ce qu'on se rend au gymnase?
Ouais.
Puis écrivons une marche à suivre ensemble par rapport à ça. Je suis en train de travailler tout ça, là.
Ah oui.
Mais sans que ça soit proprement associé, identifié à la littératie.
Oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, juste pour continuer, pour faire le pont en ce que tu viens de dire, c'est drôle lorsqu'on parle de fréquence, tu sais, des fois on a dit « Oh non, j'ai pas fait ci, il faut que je le fasse à chaque jour, il faut que je le fasse XYZ. Mm-hmm. » Mais je pense que, comme par exemple, la semaine passée, j'ai travaillé avec deux enseignants dans une école qui sont des vraiment super enseignants, là. Ce qu'elles ont dit avait tellement de sens. Elles ont dit qu'au lieu de juste équilibrer ton bloc durant la journée, mais il faudrait aussi équilibrer ta semaine de littératie. Puis ça, j'ai beaucoup aimé cette expression-là.
Oui.
Ouais.
Oui. Et il faut se pardonner de temps en temps si on ne touche pas à toutes les composantes dans une journée.
Oui. Parce que, justement... Ouais. J'allais dire, parce que justement...
Moi, je te pardonne, Mylène ne te pardonne pas.
Parce que justement, dans ton bloc, mais tu sais, on a besoin de mettre les pantalons de neige. On a besoin de manger une collation.
Puis le spectacle, puis les messages, puis le... Des fois, les 100 minutes que prescrit le ministère pour avoir comme 100 minutes de littératie non interrompue ou 100 nombre de mathématiques, c'est pas toujours réaliste.
Non.
Mais on peut... Les minutes qui nous restent avec tout ça, on peut en tirer le maximum.
Ouais.
est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de tout?
Ah oh, oui.
Ouais. Mais là, c'est parce qu'il
y a... Il est 4 heures.
On n'a pas parlé... Ben là, c'est parce qu'on n'a pas parlé de l'évaluation, on n'a pas parlé de la méthode café, on n'a pas parlé de la méthode favori, on n'a pas parlé...
On revient la semaine prochaine.
Okay. Je pense que ça va être une prochaine...
OK. Ouais.
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!